Sono le 22:30.
Premessa per l'Europol è che gli Stati Uniti
in one of his favorite cities.
Pablo. Veniamo a...
Sono le 22:30. Sono le 22:30.
È che gli stati nu...
Thank you.
Radio Libertaire. Radio Libertaire, bonsoir. Bonsoir de nouveau en direct sur l'antenne de Radio Libertaire. Est-il besoin de préciser que c'est la radio de la Fédération anarchiste et que nous sommes sur la bande FM parisienne? Oui, je sais, voilà, j'avais perdu déjà j'ai repris le fil sur la bande FM parisienne, le 89.4. On écoute également et avec plein d'autres choses sur les sites radio-libertaire.org et anarchiste.info. Ça, c'est pour Internet. Bonsoir, donc, nous sommes en direct et vous êtes à l'écoute de Libertaire et de l'émission de Post Non Radio Show. Ceci n'est pas une émission de radio avec Enrico Micro et sa bande, la bande des quatre sous le dôme de chaleur parisien. Serge.
Bonsoir, Enrico.
Toujours dans le même ordre, hein, vous avez vu. Guy.
Ah oui, bonsoir.
Bonsoir, plus fort, mon grand, plus
bonsoir
fort.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Bonsoir. Et Yves.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel micro as-tu, Yves?
Le...
Comment poser
le bleu. Le bleu.
Le bleu. Alors, voilà, j'étais sur le mauvais micro.
Eh ben,
le bleu pour Yves. Alors, est-ce qu'on t'entend bien?
Oui, bien sûr, on l'entend bien.
Oh, de sa belle voix, Yves. Formidable. Guy, recommence. Bonsoir, Guy.
Bonsoir, deux fois, oui.
Bonsoir, trois fois.
Trois fois, bien,
voilà. Alors, on ne vous imposera pas, comme les fois précédentes, le réglage des casques à l'antenne, puisque ça vient d'être fait hors antenne. Juste avant que ça commence, c'est pour ça que vous avez eu droit au générique qui s'est étiré pendant de longues
ouais,
minutes.
Oui, on a entendu, oui.
Ouais, bah, il fallait bien faire le test. Voilà, il est toujours en train de se plaindre. Donc, nous revoilà en ce... Alors, je ne sais plus quelle est la date d'aujourd'hui.
18.
Le 18 août, à août 2020.
Ah,
j'allais dire 19...
Ah, t'as vu, hein.
1984. Pas du tout.
Oui.
Voilà. Et le 18 août 2000, mon micro est... Oula, il est super fort, le mien.
Retour dans le futur.
Retour dans le passé, comme souvent dans cette émission, car j'aime le passé. Voilà, alors pour ceux qui s'attendraient à de la nouvelle musique, des récentes nouveautés, enfin, de etc., passez votre chemin. Vous allez encore être gâtés, c'est pour la programmation des musiques de la fin des années 90 et la décennie 2000-2010.
Ok, l'époque du menuet, quoi.
Ah, tout à fait. Et, voilà. L'époque du menuet, du clavecin et tout ça. Donc, bah oui, je change de temps en temps, voilà, et puis... Non, voilà, si les vieilleries vous importunent, quoique celles-ci sont intemporelles. J'ai envie de dire, la musique, finalement, elle peut être marquée par son époque, par son temps, et en même temps, elle est intemporelle. Elle traverse les âges. Je pense que, comme on écoute de la musique des années 20, 1920, 1930, et on en écoutera un jour dans cette émission, c'est promis. Je prépare ça, mais bon, j'ai tellement de choses en stock qu'il faut bien que... eh bien, je pense que dans 100 ans, nous écouterons de la musique des années 2023. Bref. Nous sommes à jour J, moins combien des JO. Non, je plaisante, c'est une blague. Alors, eh bien, sous le dôme de... Voilà, sous le dôme de chaleur à Paris... Ça va, on est au frais ce vendredi, ici dans le studio. Comme c'est une cave, c'est resté frais.
Donc voilà.
Bon, une cave, bon, je plaisante. Contrairement à la semaine dernière où on étouffait, c'était terrible. Cette année. Bon. Ce vendredi, je veux dire. j'ai vraiment mon esprit a envie de se retrouver quelque part ailleurs que maintenant. J'ai l'impression. Donc, chers amis, donc la bande des quatre sous le dôme, Est-ce qu'on va être intéressant ce soir? Ou est-ce qu'on va passer pour une bande de pieds nickelés qu'on n'avons rien à faire d'entretenir d'entertainer notre public, nos quelques auditeurs qui restent, qui ne sont pas partis en vacances, etc. Ou est-ce qu'on a préparé des petites choses quand même à dire à travers ce micro pour pas que les gens aient l'illusion qu'en fait on fait quelque chose.
Ou on prépare rien peut-être.
On prépare rien en fait et qu'on s'en fout et qu'on fait de la radio parce qu'on a juste envie de faire la radio comme ça en passant quelques disques et en se disant bon bah tiens on va passer des grumeaux de quelque chose d'info entre les disques histoire de je sais pas si ça rend cette émission plus intéressante. Bon, quelquefois ça la rend plus dense. Ah bah dis donc, bravo. Alors, quelle réactivité.
Alors, quelques articles issus du canard enchaîné, alors,
pour
plus peu, chose,
pour ceux dans le public là, pour ceux là, des camarades de la bande des quatre qui il faut, on est dans une émission de radio.
Oui.
Je fais une émission de radio, ça se veut pas un pan. Ça se veut, voilà. Pour être moderne et dans le ton de la modernité, hein, parce que sinon on va se faire juger comme étant une radio de ringard des années 80. Voilà, des gens qui font de la radio comme en 1980 à l'époque des radios libres et qui laissent des silences comme ça de 10 minutes à l'antenne. Alors, Guy, t'as un truc à dire? Ouais, t'as un truc à dire, quoi. Bon, enfin bref, moi je parlerai de la radio tout à l'heure.
Tu imites bien la radio des années 80.
Ouais, bah de toute façon, on m'a accusé de faire de la radio des années 80. Eh bien, tu sais, c'est d'ailleurs un animateur de cette radio, ici, de cette radio à Radio Libertaire, qui a une émission, je ne dirai pas quel jour, le vendredi après-midi, qui m'a dit ça. Tu sais ce que je te dis, hein? Bah, je t'emmerde. Ça, c'est pour cet animateur. C'est une émission du début d'après-midi. Pour ceux que ça, à qui ça dirait quelque chose.
Pour comme... ceux qui ont écouté quelque chose, donc la connaissent.
Ouais, voilà, comme j'ai
à
pas envie. À 14h30, comme j'ai pas envie de dire son nom. Donc, cette espèce de gros con. Voilà. Oh, mince. Oh, c'est pas bien de faire. Il faut rester corporate et. Bref, passons.
Donc il y avait quelque chose, en tout cas, a toujours des
donc,
choses à dire.
Alors, j'avais envie de dire comme si...
Il s'en fout, il est lancé, là.
Non, mais attends, je vais vous laisser la parole. Mais j'avais envie de dire comme si, quelque part, ce que nous faisions un peu nous tous sur cette radio et aussi sur les autres radios n'était pas un peu de la radio des années 80 ayant pris des formes à peu ou prou ou plus ou moins moderne finalement. Donc pour moi c'est vraiment, alors je vais dire un truc, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment esthétiquement ça a l'air, dans l'esthétique sonore ça et radiophonique ça a l'air d'une émission des radios des années 80, et ben je peux dire un truc, je peux prendre ça comme un compliment finalement, parce que dans les années 80, eh bien, comme c'était les années de défrichage et de recherche, il y avait de très très chouettes émissions, et pas simplement sur Radio Libertaire, mais il y en avait sur Radio Nova dont je parlerai tout à l'heure, il y en avait sur Oui FM, il y en avait sur beaucoup de radios, il y en avait aussi sur France Q et sur France Inter et blablabla. Donc pour moi, franchement, du moment qu'on me dit pas que je fais de la radio moisie comme nostalgie, ça me va. Ça me va.
Oui.
Voilà, c'était le préambule comme chaque vendredi, mon petit édito. Ah, oh, voilà, c'est mon casque. Je vais te frapper, toi. Attendez. Voilà. Donc.
De la phrase célèbre, c'était « Je parle à mon bonnet » et là, c'est « Il parle à son casque ».
Non, je parle à la prise de mon casque qui a un mauvais, donc je devrais changer de casque. Mais j'ai pas envie de racheter un casque. Voilà, vous savez, toute notre intimité intime. C'est la radio, on parle pas de nos... Voilà, on parle pas de nos culottes, on parle de nos casques, de nos jacks, de nos prises. C'est de pire en pire cette émission. C'est de pire en pire. Quand est-ce que je vais faire une émission sophistiquée et intelligente et sophistiquée?
C'est à moi que tu dis.
Où je vais arrêter d'être vulgaire. Où je vais arrêter de faire n'importe. Bon, bref. Je sens qu'il y a envie de prise de parole.
On commence par Yves.
Yves, veux-tu nous enchanter avec tes... veux-tu nous enchanter avec tes articles du canard enchaîné?
Moi, j'ai du retard sur le glyphosate. Donc, je vais commencer par vous fourguer un vieux truc sur le glyphosate.
Le glyphosate.
Du canard enchaîné du mercredi 26 juillet qui a le mérite d'expliquer le problème, pourquoi finalement ça bug sur le glyphosate.
Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas... Pourquoi est-ce qu'on... finalement, c'est pas bien de manger et de boire du glyphosate.
Oui, alors c'est un monsieur qui s'appelle Stéphane Foucard et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Un mauvais usage du monde ». Et donc il y a un article qui s'appelle, enfin l'entête c'est « Plouf » dans le canard. Et donc ce monsieur Stéphane Foucard, il raconte, d'ordinaire ça se passe toujours de la même façon. Il y a un pesticide qui est reconnu cancérogène. On le retire progressivement du marché, on le remplace par un autre ou d'autres pesticides. Au bout de quelques années, ils sont reconnus comme étant des dangers publics, on les retire, etc. Mais pour le glyphosate, ça ne se passe pas comme ça et ça ne s'est pas passé comme ça. En 2015, il y a le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS qui publie une étude solide affirmant que le glyphosate est sans cancérogène probable. Alors, réaction qu'on ne connaît pas en France, aux États-Unis, 138 000 Américains ont attaqué en justice. Ah, ça nous épate quand même. Qui ? Ben, la multinationale Monsanto, l'inventeur de glyphosate, sous son nom commercial Roundup.
Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Monsanto.
Voilà. Qu'ils accusent restent responsables de leur cancer. Monsanto nie, son herbicide est inoffensif, voyons. Je lis cet article en sautant éventuellement des petits passages. Et donc, ils relancent une campagne de dénigrement du cirque, ils harcèlent les chercheurs qui lui sont associés, et bref, ils investissent 17 millions de dollars pour blanchir le Roundup. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi d'autres agences sanitaires, et pourtant, et tout spécialement l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ont-elles affirmé à leur tour que cet herbicide était sans danger et qu'il devait rester en vente? L'EFSA vient de lui renouveler son feu vert ce jeudi 6 juillet et précise pourtant que les données sur lesquelles elle s'appuie sont incomplètes et ne permettent pas de tirer de conclusions définitives et qu'à long terme, la moitié des usages du glyphosate présente un risque élevé pour les mammifères. On croit savoir que l'homme en est un. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un herbicide comme un autre, dit Foucard, et que s'exerce à son sujet des pressions politiques inouïes. Non seulement il est très efficace et pas cher, mais point crucial, voilà près de 30 ans que Monsanto, c'est-à-dire aujourd'hui racheté par Bayer, a rendu son maïs et son soja OGM résistants au glyphosate. Donc ce qui veut dire qu'on peut pulvériser du glyphosate partout, massivement, indistinctement, sur des parcelles où il détruit tout, sauf les céréales génétiquement modifiées de façon à les résister. Et cette innovation a accéléré l'industrialisation de l'agriculture. Elle lui a fait changer d'échelle, notamment au Brésil et en Argentine. Plus besoin de main-d'œuvre. Des économies formidables, des parcelles toujours plus grandes, du soja AGM, OGM à bas prix, exporté partout. L'Europe en dépend à 80-90% pour son cochon, sa volaille hors sol, et sans le glyphosate, c'est tout le système qui s'écroule. L'agriculture sans paysans, la monoculture à grande échelle, la surproduction animale, donc pas touche. Et pas grave si on le retrouve dans les trois quarts de nos fleuves, rivières, mares et temps, puisqu'il est inoffensif. Contaminons le cœur léger, le quart restant. L'article est signé Jean-Luc Porquet.
Bah, d'ailleurs, t'aurais pu faire gaffe et honorer Jean-Luc Porquet en lisant un peu moins vite et en ne mangeant pas tes R. J'ai remarqué que tu as mangé presque tous tes R.
Je mange mes R, c'est l'accent parisien.
Oui, tu manges tes R. Mais c'était très bien. Enfin, à part qu'on soupçonne que tu sois une taupe de Sandrine Rousseau dans cette émission, mais c'est pas...
Non, mais Monsanto, c'est toujours la même chose. C'est une très grosse boîte qui fait énormément de pression et qui n'admettront jamais qu'ils foutent la merde dans la nature, etc. Ils ne reconnaîtront jamais ça. Jamais,
si,
jamais.
Si, par la force des choses, quand ils sont acculés... sous pression dans un tribunal, ils le reconnaissent, et encore.
Et oui, mais ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes.
En fait, on est toujours dans le même combat, quoi.
Toujours, oui.
C'est-à-dire voilà, que... Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est... parce que c'est vrai que pourquoi cette fixation sur cet herbicide, finalement, quoi. Et là, on comprend. Qu'en plus, donc, le maïs qu'on donne aux cochons, etc., et qui vient du Brésil et d'Argentine notamment, est bourré de ce produit, puisqu'ils en mettent partout, donc il y en a dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le lavent, ils le nettoient, ils empêchent ça de passer dans notre consommation, via celle du cochon.
Alors, ah bon, alors,
c'est quand même un gros problème.
Alors, est-ce que ça veut dire que quand, dans les restaurants, il est marqué... viande provenant de provenance française, est-ce que ça veut dire que nos vaches à nous, françaises, elles ne mangent pas de glyphosate?
Elles sont alimentées avec du soja, des OGM à bas prix, exportés partout, y compris en Europe. Alors en France,
80%. Oh, ça veut dire que c'est
cochon et sa volaille hors sol. Ils parlent du cochon et de la volaille, je ne sais pas ce qu'il en est du reste.
Alors ça veut dire que ces excellentes côtelettes de porc. Ou ces excellentes entrecôtes de bœuf qu'on mange au resto, non, en fait, ou chez boeuf, soi, ou chez boeuf, soi.
Bœuf, peut-être pas. Il parle uniquement du bœuf et de la volaille.
Non, du porc et de la volaille, t'as dit.
Du porc et de la volaille, oui, du porc et de la volaille. Mais il parle également de plus besoin de main-d'œuvre. Donc, économie formidable.
Pourquoi plus besoin de main-d'œuvre?
Parce que il dit dans cet article que l'innovation en question a accéléré l'industrialisation de l'agriculture et lui a fait changer d'échelle. C'est-à-dire qu'ils pulvérisent partout de l'herbicide qui détruit tout sauf les céréales. Donc avant ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut des gens pour désherber.
Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. T'as d'autres articles?
Vraisemblablement.
Non, mais c'est une mine sans fond d'articles. Du canard enchaîné, du monde...
Il va nous dire
monde.
Que c'est une illusion musicale.
Mais...
Ouais. Oui, bah, si tu veux passer une pause musicale, il n'y a aucun problème.
Parce que entre les articles du monde enchaîné, du canard, il y a des morceaux de musique.
Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a entendu au début de...
Je le dirai après.
Bon, très
allez,
bien.
Allez, morceau de musique.
Il est vraiment indépendant, hein. Il se plie pas à le demande.
You're about to undergo group testing to help you to get rid of your inhibitions. The test has been tailor-made for you. Your duty is to refuse nothing. Camarades, remove your uniforms.
Television, turn on your radio. Leading on complete submission. We'll show you how it goes. This is a love invasion to get your body hot. No X in our equation. G marks the only spot. We'll be right back.
have some fun. I wanna have some fun. Come on and have some fun.
Ici Radio Libertaire de Poznan Radio Show, nous émettons à destination du monde libre et nous n'avons qu'une seule chose à vous dire, help us, sortez-nous de là. Radio Libertaire, nous sommes en joie, moi et mes camarades de la bande des quatre.
Oui, on est là, on est là.
Alors, Guy, toi, je te demande pas, Serge, tu prépares jamais rien.
Ah, si, c'est vrai.
Je plaisante, c'est une blague.
Je peux préparer des
Serge.
Choses. Serge. Sur le DAB, il nous avait.
Serge, mais oui, ah, bien
si,
sûr.
J'ai beaucoup bossé sur certains trucs.
Oui, oui.
Et n'oublie mais pas oui, l'article d'un certain magazine d'extrême droite dont on avait parlé aussi.
Mon gars, bien sûr, je joke.
Ah oui, mais bon.
Oh, aïe, il va le prendre mal.
Non.
Oh,
là, là, là. Donc voilà.
Bon. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Hein.
Ah bah, ça, oui. Malheureusement. Oh. Tu ne peux pas y couper.
À mort, le chat. Hein.
Enfin, j'ai une famille de chats avec de la litière incluse. Hein.
Oh, la
litière incluse dans la gorge. dis donc.
Eh ben,
alors,
ouais,
oui.
Je vais vous lire pas un article, mais une dizaine d'articles.
Oh.
Donc, je vais lire que la présentation de ces articles-là.
Ah, bah,
vous aurez tout le contenu.
Bah, dis-nous tout.
Ça va être très attirant, vous allez voir.
Tell us.
Bah, je vais m'arranger pour que ça soit attirant, de toute façon. Hein, mais ça l'est.
Oui. Alors,
ça commence oui, au début. Hein. Oui, c'est épais quand même. Il y a un centimètre d'épaisseur, hein, le journal.
C'est le monde nouveau libertaire. Monde libertaire.
C'est toujours l'été, oui. L'été,
ah, c'est toujours l'été.
D'accord. Été 2033.
23.
Ah oui, maintenant 2023.
Ouais, maintenant,
j'étais déjà en
2033.
Mais bon, ouais. 1852, c'est le numéro.
Il est comme moi, il veut sauter 2024.
Ah
et
oui,
et
oh,
les,
oui,
les terrifiants Jeux Olympiques.
Oh là, non. C'est...
Qui vont nous pourrir l'année.
Oh, je pense à toi, là. J'ai vu sur le périph', là,
y a quoi,
ils ont
y a des...
fermé tous les accès vers Paris-Centre du périph' extérieur. Sur toutes les portes, c'est fermé.
T'es sérieux?
Parce qu'ils font des répétitions déjà. Et répétition pour les Jeux Olympiques.
Non, mais c'est pas vrai.
Dans un an, hein, attention, hein, c'est pas...
Déjà, sans faire de répétition, j'ai pris le bus 61, et
ouais.
Quand il arrive en face de la gare de Lyon,
oui.
Alors il y a quelques travaux qui font que tout ça se passe sur une voie, en venant
toujours,
de la Seine.
Il y a toujours une seule voie, effectivement.
Et il y a des travaux en plein milieu, bon, ça sera impeccable quand ça sera fini. Ensuite, le bus, au lieu d'aller tout droit, il prend non pas la voie du milieu, mais celle de gauche. On est toujours surpris quand il va tellement à gauche. Mais pour en arriver là, avant d'arriver dans ce truc, il y a un bouchon. Moi, j'étais dans un bus, le gars, il a dû laisser passer 4 ou 5 voitures qui venaient de sa gauche. Et qui lui laissait pas la priorité. Puis il y avait un bus sur la droite et on a mis un quart d'heure à franchir un carrefour de 15 mètres.
Oui, c'est particulier cet endroit-là.
Ah,
oui.
C'est
très très particulier. On n'est pas très loin de la gare de Lyon, on y arrive, on arrive à l'arrêt, on arrive à l'arrêt presque, mais n'est pas à l'arrêt, justement, on n'arrive pas à l'arrêt, il faut attendre que.
Je plains le conducteur.
Ah oui, tout à fait.
Je plains
donc,
le conducteur.
Donc Guy avait quelques articles à nous présenter.
Oui, alors voilà, donc ça se présente des articles. Là, c'est dans une rubrique passeport. Oui, mais je regarde plus loin. Est-ce que je vais retrouver cette rubrique encore ici un peu? Oui, après, ça change de rubrique, mais c'est pas grave. Alors, Biélorussie, ça c'est important en fait. Un congrès d'anarchistes biélorusses s'est tenu en Pologne. Voilà. Mmh. Alors, ils ont créé un manifeste, voilà, manifeste du groupe Pramen, vous explique un peu tout ce que. Ça reste quand même assez confus dans le sens que c'est en pleine effervescence. Hein. C'est assez inquiétant. D'ailleurs, le.
Qu'est-ce qui est en pleine effervescence? La région hein.
Non, mais ce qui se passe avec bah, des groupes qui partent en guerre, qui changent de pays, qui veulent se retrouver avec d'autres. Bah, d'une manière étonnante.
Sois plus clair là.
Et bien, par exemple, voilà, Biélorussie, les anarchistes au bord de l'histoire. C'est un point d'interrogation. Alors, depuis de nombreuses années, le mouvement anarchiste en Biélorussie et en Russie et en Ukraine a participé à des événements politiques majeurs et plus ou moins de succès. Maïdan ou, en Ukraine, oui, la place Maïdan, manifestation contre l'esclavage en 2020, au Bélarus, action en Russie. Partout où la lutte contre l'autoritarisme a commencé, les anarchistes étaient au premier plan. La même situation s'est produite lorsque la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. De nombreux camarades de diverses régions de l'ancienne Union soviétique ont pris les armes pour lutter contre le régime inhumain de Poutine. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'anarchistes et d'antifascistes se battent en Ukraine, dispersés dans différentes unités et sections du front. Certains ont pu créer leur propre petit groupe de combat, composé de camarades et d'amis, tandis que d'autres se battent seuls dans les rangs de la ZSU, c'est un acronyme pour Force Armée Ukrainienne, oui, qui considère que ce type de formation politique des anti-autoritaires est important. De nombreux anarchistes et antifascistes ont fini par rejoindre des groupes qui n'avaient même pas une vision politique libérale de l'avenir de l'Ukraine, du Bélarus ou de la Russie. C'est un peu complexe. Hein. Les agences gouvernementales sont plus susceptibles de donner le feu vert aux soi-disant patriotes. Après l'effondrement du peloton anti-autoritaire en Ukraine, plusieurs personnes étaient encore désireuses de créer des unités militaires anarchistes ou anti-autoritaires, au moins en tant qu'opposition politique aux structures d'extrême droite qui continuent à se développer avec succès dans la lutte contre le fascisme russe. Mmh. Malheureusement, jusqu'à présent, toutes ces tentatives n'ont abouti à rien de plus ou moins sérieux. Il va sans dire que les agences gouvernementales sont plus susceptibles de donner le feu vert aux soi-disant patriotes que de permettre aux anarchistes de participer pleinement à la guerre, même si dans ce cas, il y a un ennemi commun au Kremlin. Malheureusement, les tentatives de création de groupes séparés sont restées l'initiative d'un petit nombre de camarades. Alors, l'engagement actuel de l'extrême droite russe aux côtés de l'Ukraine est un opportunisme. C'est un titre, hein, ça. Alors, les récents raids du corps des volontaires russes montrent la gravité de la crise dans laquelle se trouve le mouvement anarchiste. De nouveaux camarades sur les réseaux sociaux ont commencé à parler positivement des raids de l'extrême droite sur les territoires contrôlés par Poutine. Et si nous mettons de côté les opinions politiques de la Russian Volunteer Corps, RVC, voilà. Voilà, donc oui, les corps de volontaires russes. Nous pouvons vraiment voir quelque chose de positif dans ce qui se passe. Mais nous ne pouvons en aucun cas rejeter ces opinions. L'engagement actuel de l'extrême droite russe aux côtés de l'Ukraine est un opportunisme dans l'espoir d'obtenir le pouvoir politique en Russie après la défaite de Poutine. Il ne fait aucun doute que l'immense popularité des néo-nazis pour leur action dans la République populaire de Belgorod, attirera encore plus de monde dans leur rang et que la montée des opinions du monde russe alternatif, selon lesquelles le génocide du peuple russe est en cours, s'avérera populaire, non seulement parmi les groupes néo-nazis sectaires, mais aussi dans des cercles sociaux plus larges. Certains des bons russes, et des bons russes, se sont avérés être des néo-nazis qui, dans le passé, ont tué des migrants dans le cadre de la lutte pour la pureté de la nation russe. Il est difficile de dire ce que ces nazis feront demain dans une Russie effondrée, mais ils ne se battront certainement pas pour la liberté. Et tandis que l'ultra-droite accroît son influence non seulement en Russie, mais aussi dans la diaspora bélarussienne, nous constatons l'activité relativement incertaine de nombreux anarchistes. Ceux qui voulaient aller à la guerre l'ont probablement déjà fait. Et pour beaucoup, en Europe, la guerre reste une toile de fond à laquelle ils se sont même... Ils se sont même, dans une certaine mesure, habitués. Alors, après avoir déménagé dans des pays libéraux, les anarchistes de Biélorussie ou de Russie n'ont plus de perspective de lutte. Et la crise du mouvement n'a fait que s'aggraver. Beaucoup des camarades les plus actifs sont absorbés par le travail anti-répression. L'ensemble de la situation actuelle a poussé les anarchistes de leur position de participants les plus actifs dans la lutte pour la libération des peuples d'Europe de l'Est, vers l'arrière du train de l'histoire. Il semble que nous ayons abandonné nos espoirs d'une transformation révolutionnaire du monde en faveur d'une réalité dans laquelle nous sommes devenus beaucoup plus individualisés et ne cherchons plus les résistances collectives. Mais les anarchistes ne sont forts que lorsqu'ils sont unis. Fragmentés sur des lignes différentes, nous risquons non seulement de perdre un nouveau cycle de lutte sociale et politique, mais aussi de perdre le mouvement anarchiste dans son ensemble. Si nous avons dit hier qu'il n'y aurait pas de mouvement anarchiste, si la Russie gagnait en Ukraine, il y a aujourd'hui de fortes chances qu'il n'y ait pas de mouvement anarchiste, même si l'Ukraine gagne. Voilà, alors ils finissent, pas assez préparés à la guerre. Alors certains d'entre nous peuvent pointer du doigt les anarchistes ukrainiens en disant qu'ils n'étaient pas assez préparés à la guerre et qu'à cause de cela, ils ne peuvent pas permettre aux anarchistes d'autres pays de participer pleinement. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cette approche. En tant qu'internationalistes, nous pensons que la préparation à toute crise politique dans la région repose sur les épaules de tous les camarades et ne s'arrête pas aux frontières des États-nations. Dans quelle mesure les anarchistes russes ou biélorusses étaient-ils prêts pour cette guerre? Nous pourrions en parler pendant longtemps. Si vous n'avez pas la capacité ou le pouvoir de prendre les armes, rejoignez les structures civiles et agissez. Alors que faire maintenant, alors que la guerre a provoqué une crise aussi grave? Ceux qui pensent encore à participer à la résistance militaire devraient le faire maintenant. Ce n'est qu'ensemble que les anarchistes pourront construire les structures nécessaires à une pleine participation politique pendant la guerre et après la victoire sur la Russie. Prenez contact avec le comité de résistance et découvrez comment vous pouvez participer à la lutte collective. Si vous n'avez pas la capacité ou le pouvoir, eh bien de prendre les armes, rejoignez les structures civiles et agissez. Si nous ne sommes pas assez déterminés aujourd'hui, demain la Biélorussie ou la Russie libérée pourraient devenir des lieux beaucoup plus hostiles aux idées de liberté et d'égalité qu'ils ne le sont aujourd'hui. Jusqu'à ce que tout le monde soit libre. Voilà, ça fait partie donc du manifeste hein, de ce fameux groupe Pramen. C'est attention, hein, c'est...
Ça veut dire que...
Tout est impliqué, hein, c'est, oui. C'est grave. Hein, ouais.
Mais ça veut dire aussi qu'on peut compter sur les anarchistes en Ukraine pour s'allier au combat contre la Russie.
Oui, ce qu'ils ont déjà fait il y a très longtemps, j'avais lu ça il y a plus d'un an.
Et ça permet effectivement, cet article ça permet de rappeler effectivement que l'anarchie peut éventuellement ne pas disparaître si jamais il y a effectivement une victoire, entre guillemets, russe ou quelque chose comme ça. Donc il faut effectivement éveiller les consciences. C'est bien ce que j'ai compris.
Oui, c'est bien. Voilà, oui. Voilà, je continue pas dans ce que je devais continuer parce que j'ai lu un article qui était quand même sur toute une page. Après, ce sera que des petits bouts comme ça qui se rajoutent bien les uns aux autres. Je le ferai sans doute après, peut-être après Yves ou après un morceau musical, sans doute. Voilà.
Un morceau musical.
Ouais, super.
Alors.
Voilà. Oui, très bien.
C'est une émission musicale.
Oui.
Ok. Musique. Waiting for another day.
listen to the wind, soft color new eyed. Invisible shivers passing over your heart. Each time you think you hear the roll of a call, bringing up a silent sign of life. Bringing up the sign of life. And on the radio, however, say no song. And on the radio, however, say no song. And on the radio, however, say no song. And on the radio, where the same old song is played.
Radio Libertaire, the same old song on the radio. Bah justement, avant que tu reprennes ta liste de titres, de chapeaux, d'articles que tu feras peut-être après mon intervention, après un autre morceau de musique, moi j'aimerais justement, ça tombe bien, parler un peu de radio là, vite fait. Alors, des nouvelles de nos amis, les autres radios.
Ah, ça m'intéresse.
Ce sont nos amis, bien sûr.
Oui.
Alors, parce que ça semble de nouveau intéresser la presse, hein, parce que la presse, elle s'intéresse à ce qu'elle veut bien. C'est un peu comme certains noms, par exemple, dans un certain accident d'avion là, qu'il y a eu récemment, où il y a un journaliste très célèbre, demi-frère d'un chanteur très célèbre français. Et on se demandait à table tout à l'heure au resto. Mais quelle était l'identité de la troisième personne ? Parce qu'on a le droit aux identités des deux. Madame Monori, petite fille ou fille de, et Monsieur Leclerc. Mais qui est la troisième personne ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas son nom ? Serait-ce la maîtresse de Monsieur Leclerc ? Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais c'est pas... On me dira, oh là là, mais c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ce fouille-merde, ils viennent à peine... Ils viennent juste de mourir tout de suite. Bon, non, c'était pour, en fait, un peu épiloguer sur la presse. La presse qui s'intéresse à ce qu'elle veut, et elle te donne à t'intéresser à ce qu'elle veut quand elle veut, la presse. Alors, loin de moi et loin de nous de penser que la presse est téléguidée, télécommandée, gna gna gna, qu'on est des complotistes, que machin, que truc. Mais, comme tout le monde sait, nous sommes dans un pays démocratique. existe la liberté d'expression. Et on peut quand même se poser la question de savoir, et de toute façon on n'est pas les premiers à le dire, que ben, la presse, elle te donne ce qu'elle a bien envie de te donner quand elle veut te donner, la presse. Hein, c'est pas forcément les fabuleux. Oui, il y a dit, bon, ah, je reconnais quand Guy lève la tête comme ça, il a même pas besoin de me regarder. On a une telle complicité depuis des années que je sais qu'il est d'accord avec moi.
Ah bon?
Ouais. Si, je le sais qu'il est d'accord avec moi. Bon. Ouais. Bon, c'est très bien que la presse, elle, bon, toute démocratique qu'elle soit, est tout au service. Alors, entre guillemets, c'est moi qui l'aimais, je veux bien être accusé de tout ce qu'on veut. Soi-disant au service des gens, du peuple, de ses lecteurs. Comment? C'est à discuter.
Il n'a jamais été question de ça.
Comment ça?
Il n'a jamais été question que la presse soit au service de ses lecteurs, si?
Bah, au service de la vérité, qu'elle est censée faire connaître au lecteur.
La vérité.
Ne tergiverse pas, Yves. Bref, la presse, ça c'était le préambule, hein, mais j'en ai pas pour longtemps. La presse, bref, de nouveau s'intéresse un peu à la radio. En dehors des histoires de mercato, de radio dont on se demande quels sont les tenants et aboutissants sous-jacents politico-financiers en dessous d'effondrements de radio tels qu'Europe 1, RTL, ou bien pour cirer les pompes à France Inter et dire à quel point cette radio qui est numéro 1 des écoutes est formidable et patati et patata. La presse s'intéresse un peu aux autres. Alors on a eu une petite série d'articles sur le soi-disant renouveau de la ringardissime nostalgie, Radio Nostalgie.
Cinquième radio de France, je crois, c'est ça à peu près.
Oui, ouais, bon, ok.
Ça me surprend d'ailleurs.
Mais ça nous surprend tous, hein. Bon, enfin bref. Mais bon, que les gens aient des goûts de merde, ça on le sait. Passons. Et puis récemment, bon, ça c'est plutôt un article de, comment on pourrait dire, de goût, de coup de cœur que les inrocs ont fait concernant une radio anglaise qui s'appelle NTS, très branchée, machin. Donc peut-être je parlerai un de ces quatre. Et ensuite, Le Monde nous a fait aussi un papier. Là, j'ai chaud de nouveau, tiens. C'est parce que j'ai dit des méchancetés. Le Monde nous a fait un petit papier sur Radio Meux. Ah, alors, Radio Meux qui serait, d'après ce qu'ils disent, la première radio écoutée sur Internet.
Oui, il paraît.
Bon, il paraît que Radio Meux, et alors c'est à l'occasion de l'été que l'article en fait parle de Radio Meux, parce qu'à l'occasion de l'été, Radio Meux fait des mix pique-niques dans les pâturages.
C'est ça. C'est une radio de montagne.
Voilà, dans les pâturages, avec les vaches, ils font des pique-niques et des mix là-haut dans la montagne. Super. Et là, cet après-midi, un article de nouveau du Monde sur, accrochez-vous bien, j'ai l'impression que je vais enterrer quelqu'un, sur Radio Nova. J'ouvre l'URL là parce que, alors, je n'ai pas la teneur de tout l'article. Je ne suis pas abonné à Radio Nova. Au Monde, pardon. Alors, ce qui est bien, c'est que quand t'es dans ces médias-là, machin, pour alerter un autre média de ta situation, bah, c'est bien, on sent quand même qu'il y a des sortes de, je sais pas, de passerelles. Moi, j'aimerais bien alerter sur la situation dans mon entreprise. Je sais pas comment faire pour contacter Libération, Le Monde, et leur dire « Ah là là, on est en souffrance, machin. » Enfin, bref, c'est pour prendre un exemple. Je prends un exemple comme ça. Hein. Parce que à Radio Nova, il y a des salariés angoissés, et ben, sous couvert d'anonymat, ils ont contacté Le Monde, donc, pour leur dire ça va pas. Enfin, voilà, je voulais juste préciser que, voilà, donc c'est pas n'importe qui peut contacter Le Monde pour dire « Et dans ma boîte, ça va pas. Mmh. » Bah, Radio Nova, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, des salariés face au changement voulu par la direction. Alors, fragilisés par des audiences en recul. Ah, crotte. La station, bah merde, ils sont tous partis écouter Radio Nostalgie. C'est bête.
Oui.
Excusez-moi.
Oui.
Alors, fragilisée par des audiences donc en recul, la station est bousculée par l'arrivée mouvementée d'un nouveau directeur d'antenne mandaté pour faire des économies. Tiens donc. C'est un article de Brice Laemle, je ne sais pas trop comment dire, qui a été publié aujourd'hui. Alors, ça commence comme ça, libertaire, frondeuse, précurseuse, Radio Nova, elle a été depuis sa création, blablabla. L'angoisse monte. Alors, va-t-elle le rester ? L'angoisse monte au sein de la station. Celle de la perte d'une identité singulière, pensée par le fondateur Jean-François Bizot, décédé en 2007, qui se moquait de la rentabilité. Bon. Je sais pas trop, parce que moi, dernièrement, j'ai reçu plein de mails de Radio Nova pour y mettre en solde toutes leurs compilations, leurs disques, machin. Il y a encore des soldes sur les soldes, c'est encore moins cher que bon, bref. Depuis le printemps, cette inquiétude étreint. Moi, j'aimerais bien que le Monde fasse un article sur l'angoisse, sur l'inquiétude qui étreint les gens de ma boîte. Pardon. Je m'égare. Depuis le printemps, donc, cette inquiétude étreint les salariés de la station rachetée en 2016 par Mathieu Pigasse,
oui.
L'homme d'affaires, actionnaire entre parenthèses, à titre individuel du journal Le Monde, à travers son groupe Combat. Alors son groupe s'appelle Combat, comme Combat Rock, titres de groupe de Clash. Attendez, je vais en parler. Également propriétaire des Inrecuptibles,
oui.
Et du festival de musique rock en scène. Alors, un mot. Je parlerai un de ces quatre des Inrecuptibles et de ce qu'ils sont devenus. Mais pas aujourd'hui. Et quant à Combat, alors, quand vous allez sur le site, alors, je sais plus si c'est Radio Nova ou des Inrock, le mot Combat aussi a été utilisé comme logo, comme sorte de slogan plutôt, sur ces sites, le slogan qui était le Combat Radio. Je crois que c'est sur le site de Radio Nova, mais comme c'est un peu... ils appartiennent tous les deux à Mathieu Pigasse. Alors bon, je veux bien un Combat Radio, combattre quoi ? On ne sait pas trop, le capitalisme, la morosité, la médiocrité, comme je le disais, je ne sais plus quand, ça veut rien et tout dire. Bof. Eh ben, le Mathieu Pigasse... Il va leur en fournir du combat, tu vas voir. Parce que sous le couvert de l'anonymat, la quinzaine de salariés et collaborateurs interrogés par Le Monde craint le virage que Nova s'apprête à prendre à la rentrée dans l'espoir de reconquérir un nouveau public. Donc, est-ce que c'est un peu comme tous les médias qui, au bout de X années, même après avoir connu un certain succès, connaissent un émoussement, etc. Ça, c'est tous les médias le connaissent un peu, ça. Alors, et le dernier petit paragraphe que je lis avant que je puisse plus rien lire puisque je suis pas abonné, la restructuration de la grille de rentrée sera majeure. Quoi qu'il arrive... qu'il arrive, car la plupart des émissions qui la constituaient jusqu'ici disparaîtront. Seuls quelques animateurs échapperaient au changement voulu par la direction, même si la question du maintien de l'émission de cette dernière Bintou Simpore, qui est là depuis le début, est toujours en suspens. Et donc... Le flou règne sur la suite, mais comme Yves est abonné au Monde, j'espère que... Enfin, abonné. Il n'est pas abonné, il l'achète. J'espère qu'on retrouvera...
Je l'achète quand je le trouve.
Eh ben oui, mais si tu le trouves là pour ce week-end, si tu pouvais l'acheter, parce que comme ça, on aurait l'article...
Ben, je ne l'ai pas trouvé de la
Donc,
semaine.
Alors, ben voilà, Mathieu Pigasse, après avoir racheté les Inrecuptibles, les avoir lessivés, avoir licencié un tas de gens, un peu comme des malpropres, et après avoir imposé, en fait, ou du moins amené le journal Les Inrecuptibles, qui était quand même, si on s'en rappelle dès le début, un journal centré sur la musique, autour d'interviews d'artistes, faits par des passionnés, vraiment des passionnés, qui ensuite s'est ouvert. C'est ouvert à la culture en général, de l'équipe masculine. Il y a eu intégration de journalistes femmes, de femmes. Ça s'est donc ouvert. Ça s'est transformé en magazine un peu plus de musical. Il est devenu un peu plus sociétal, abordant aussi la politique, jusqu'à ce rachat où les Inrecuptibles sont devenus quelque chose complètement autre chose. C'est-à-dire que là, bah, finalement, je suis en train d'en parler, c'est devenu une sorte de... Comment dire ? On hésite à dire torchasse. Un torchon, c'est pas réellement un torchon pour respect encore à ce qu'ont été les Inrecuptibles, sincèrement. Parce que c'était vraiment quelque chose fait par des passionnés. Mais étant à la base un magazine musical... Je vois pas pourquoi il a pas muté, il s'est pas bonifié, transformé comme des magazines anglais, qu'ils soient plus ou moins branchés comme The Uncut, The Wire, par exemple, qui sont restés eux musicales et culturelles, mais sans trop non plus aborder de questions sociétales ni politiques, pour en fait devenir ce qu'il est devenu. C'est-à-dire un magazine mêlant tout et rien. On passe d'un magazine super épais auquel, si tu enlèves les pages concernant les publicités, qui concernent des produits de luxe, certainement les copains du milliardaire Pigasse ou du pseudo-milliardaire Pigasse, donc des articles de luxe, en veux-tu, en voilà, de grosses boîtes de haute couture. On ne sait pas trop à qui s'adressent ces publicités d'ailleurs. Des pages mode plutôt laides, dont on ne sait même pas ce qu'elles foutent là en fait. Si tu enlèves les quelques articles néo-féministes qui brossent dans le sens du poil certaines, si tu enlèves. Des articles woke, si t'enlèves des articles concernant des fils d'eux et filles d'eux montrés comme des exemples ou des personnalités à suivre, comme la fille est assez doux, qui a pas besoin de ça, qui est déjà née avec une cuillère en argent, et là, bon, enfin bref, si tu enlèves tout ça, il reste pas grand-chose, hein, il reste quelques articles sur l'underground, parce qu'il faut bien quand même, avoir un alibi culturel, culturo-underground.
Bah, justifier le titre.
Justifier le titre, ça fait chic. Quelques articles concernant quand même la musique. Alors, il faut savoir que maintenant, la musique avec les Inrecuptibles, c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, bref. C'est la course à la branchitude. Ça a un côté comme ça, un peu Radio Nova, un peu actuel, ce côté défricheur de tendance qui dure 3 semaines, ce côté nouveauté à tout prix, ce côté comme ça creux et vain au final. Si t'enlèves tout ça, ben, il reste quoi, quelques articles sur ce fameux alibi culturel et underground. Il reste un titre qui était qui n'est plus ce qu'il était. Il se peut. Alors, j'arrive à voir un autre paragraphe. Alors, le flou règne sur la suite. Les équipes ne connaissent l'équipe. Pourquoi les équipes ? Je ne sais pas pourquoi ils disent les équipes. L'équipe ne connaissant pas la date de mise en place de la nouvelle grille. Promise aux employés pour la mi-juillet, comme le notait en juillet Télérama, mais j'étais pas au courant vu que j'achète pas Télérama, elle n'est toujours pas officialisée en interne. On ne sait pas avec qui on travaillera, ni à quoi ressemblera l'antenne, résume plusieurs salariés. Ben, moi, je peux vous en donner une idée avec le résumé que je viens de faire sur les inrecuptibles, quoi. Vous allez ressembler à plus grand-chose.
Oui, à une radio musicale, à un robinet musical sans identité particulière.
Alors, ben, surtout que là, il est question, ce nouveau directeur a été nommé pour faire des économies.
Ben oui, mais...
Et alors, les économies se font sur quoi, principalement ?
Sur les émissions originales.
Sur la masse salariale.
Et les émissions originales.
Voilà. Donc, chers amis, chers confrères de Radio Nova, attendez-vous au pire. Vous allez passer à l'essoreuse et devenir comme les inrecuptibles, et ben en fait, du grand guignol, quoi. Vous allez perdre votre âme, vous allez perdre votre identité et devenir un truc guignolesque.
Et vous allez perdre de l'audience si vous changez, aussi.
Voilà. Donc on vous souhaite pas de devenir la nouvelle Radio Nostalgie, hein ?
Oui.
Quand même, mais bon. Voilà, c'était ma petite rubrique, nos amis les radios. Puis alors, non, moi, franchement, quand tu... Alors moi, j'achète toujours les inrecuptibles parce qu'il y a une... Il y a une compilation, et c'est sympa toujours de l'écouter, t'es toujours un peu au courant des nouveautés, et puis aussi de la merde dont on s'entiche, enfin les trucs un peu merdiques dont s'entiche Radio... Mais il n'y en a pas tant que ça, dont s'entiche les inrecuptibles. Mais alors, s'il n'y avait pas cette compilation musicale, je ne l'achèterais plus. Parce que déjà, précédemment, comme... Quand il ne faisait paraître, enfin quand la compilation n'accompagnait le magazine que de temps en temps, je n'achetais que les numéros où il y avait la compilation. Donc ils ont dû se dire, on va arrêter les frais, donc là maintenant c'est mensuel. Mais j'achèterai plus du tout, parce que je trouve ça, moi je l'ai, souvent il traîne chez moi, je le lis même pas. Et il m'arrive de le jeter en ayant à peine parcouru le numéro. Il y a évidemment quelques articles, toujours d'artistes sympas, de créateurs, d'écrivains, etc., que j'aime bien, donc je me dis merde. Mais ils sont noyés dans une masse de trucs commerciaux, d'esprit dans l'air du temps où tout se vaut, en fait. Mm-hmm. L'underground comme le commercial le plus éhonté, la course au pognon et au vide. Donc voilà, c'est vraiment à regret, quoi. À regret que je l'achète. Allez, ça mérite une pause musicale.
Je pourrais te dire en face que je ne t'aime pas. Hey, toi, quand je serai mort, te baigneras-tu encore dans un océan de larmes? Hey, toi, quand je serai mort, feras-tu encore la cata pour vendre tes charmes? Hey, toi, quand je serai mort, entendras-tu encore au loin le fracas des armes? Hey, toi, quand je serai mort, je pourrais te dire en face que je ne t'aime pas.